La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Marche du Monde confiné, une émission enregistrée, réalisée par Sophie Janin avec la complicité de Vanadis Feuille pour les archives sonores. Le combat contre la pandémie est celui de toutes les nations, c'est un mot d'ordre global, mondialisé, martelé par tous les chefs d'État. Et pour la première fois, peut-être dans l'histoire, nous nous retrouvons embarqués dans un même mouvement de mobilisation générale. Alors, à la veille du déconfinement français, nous pouvons nous demander légitimement si sortir du confinement, c'est finalement sortir de la guerre. Une question largement documentée par notre invité Stéphane Audouin-Rouzeau. Il est directeur de l'historial de la Grande Guerre de Péronne et il publie dans quelques jours son nouveau livre intitulé « C'est la guerre » aux éditions du Félin. Mais avant d'écouter ce grand historien, spécialiste de la violence extrême, j'ai voulu également donner la parole à l'un de ses lecteurs, un afropolitane, comme il se définit lui-même. J'ai nommé Achille Membe, brillant professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est l'auteur de Brutalisme, aux éditions La Découverte. C'est un essai écrit avant la pandémie, mais particulièrement éclairant pour comprendre en quoi l'épidémie accélère la mise en ordre d'un monde unifié dans lequel l'acceptation de la violence guerrière autorise toutes les dimensions, y compris les plus paroxysmiques. Vous avez peut-être reconnu la messe pour le temps présent, composée par Michel Colombier et Pierre Henry. C'est une œuvre musicale puissante, créée en 1967. C'est l'entrée d'ailleurs du son électronique dans la musique concrète. Et c'est aussi la bande-son de ce monde post-Deuxième Guerre mondiale où l'aspiration à la liberté est immense. Liberté des peuples à se gouverner eux-mêmes, hein, liberté de circulation, liberté bien sûr d'expression. Autant de valeurs humanistes mises à mal par la victoire globale du libéralisme dont la pandémie Covid-19 est un formidable révélateur. Et c'est justement cet état de brutalisation du monde que décrit Achille Membe dans son dernier essai. Achille Membe est avec nous au téléphone depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Bonjour professeur et bienvenue dans la marche du monde.
Et bonjour à vous.
J'aimerais tout d'abord savoir si le confinement préconisé pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19 conduit à un confinement de la pensée pour le chercheur en sciences sociales que vous êtes. Qu'est-ce que ça change pour vous, Achille Membe ?
Je n'ai pas du tout l'impression que la pensée est confinée. J'ai plutôt l'impression d'un dualisme. Mon corps, il est presque assigné à résidence à Johannesburg. Alors que ma psyché ne cesse de vagabonder à travers les écrans, et donc j'ai cette impression d'être divisé en deux. Mais cela ne m'empêche pas du tout de penser.
Alors le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé de doubler hein, les fermetures de frontières par les mesures de confinement. Et ça, c'était déjà dès la fin du mois de mars dernier. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
Le Conseil national de commandement sur le coronavirus a décidé de faire appliquer un confinement général dans le pays pour 21 jours, prenant effet à partir de minuit ce jeudi 26 mars. C'est une mesure cruciale pour sauver les Sud-Africains de l'épidémie et sauver les vies de centaines de milliers de nos concitoyens. Bien que cette mesure aura un impact considérable sur les moyens de subsistance de nombreuses personnes, retarder cette action aurait un coût humain bien supérieur. Les habitants n'auront pas le droit de quitter leur foyer, sauf sous certaines conditions très strictes et contrôlées, par exemple pour aller se faire soigner, aller faire ses courses ou aller retirer des aides sociales. J'ai donc ordonné le déploiement de l'armée en soutien aux forces de police pour assurer l'application des mesures annoncées.
Pour le président Cyril Ramaphosa, c'est par ailleurs la pire crise traversée par la jeune démocratie sud-africaine. Alors Achille Mbembe, vous êtes un homme du tout monde et vous définissez d'ailleurs votre identité comme afropolitane, puisque vous êtes à la fois présent dans votre pays d'origine, le Cameroun, mais aussi dans le pays où vous vivez et travaillez, l'Afrique du Sud, sans oublier les États-Unis où vous enseignez une partie de l'année. Alors que signifie pour vous cette interdiction de circulation liée à la pandémie ?
Mais disons, la question générale que pose cette pandémie, c'est tout de même de savoir si nous pouvons revoir les façons de vivre et d'être en société sur cette planète. C'est une question d'une extrême urgence. Elle se pose parce que, à travers cette pandémie, nous voyons très bien comment une série de crises en viennent à se combiner. D'une part, évidemment, la crise écologique, d'autre part, la catastrophe sanitaire que représente le Covid-19, et encore la fragilité des systèmes sociaux, l'accélération technologique, bien sûr, et je dirais la colonisation numérique à laquelle nous faisons face de façon presque synchronisée. Et donc, comment réinventer l'économie et le politique au demeurant pour qu'ils soient au service de la vie, pas seulement de la vie des humains, mais du vivant dans son ensemble, telle me paraît la question qui nous est posée. Alors, le président Ramaphosa, dans le cadre sud-africain, s'efforce d'y répondre comme il peut, à une crise, au fond, complètement non planifiée, mais qui nous oblige à des mesures dont certaines, malheureusement, brutalise les plus pauvres d'entre nous. Je parle du confinement en particulier, dans la mesure où ce confinement a débouché sur un autre fléau, la famine, qui pèse notamment sur ceux qui vivent du jour au lendemain.
Alors justement, je le mentionnais dans la présentation de cette émission, vous êtes l'auteur d'un nouvel essai intitulé « Brutalisme » et vous avez mené cette réflexion avant la pandémie. Comment vous pourriez définir cette notion qui vient qualifier le présent, notre histoire du temps présent, où l'état d'urgence est devenu la norme? Il y a les difficultés liées au terrorisme, les difficultés aujourd'hui liées à la pandémie, à cette crise sanitaire, dans un monde où tout est pénétré par le capitalisme numérique. Comment définissez-vous cette notion de brutalisme que vous venez d'esquisser d'ailleurs, Achille Mbembe ?
Disons que j'ai terminé la rédaction de ce livre en fait au mois de décembre. J'ai corrigé les épreuves du livre début janvier. Vous vous en souvenez peut-être, fin novembre, début décembre, l'actualité mondiale était prise par un événement qui se déroulait en Australie, les méga-feux.
Absolument.
Les incendies tout à fait dévastatrices, productrices de nouveaux types d'embrasements, entraînant par ailleurs la déperdition quasi définitive de vastes territoires. Et donc, cette affaire de combustion était largement dans mon esprit. Combustion provoquée par les humains, mais aussi combustion provoquée par ce que l'on pourrait appeler le déchaînement terrestre. Un monde brûlé, devenu presque inhabitable. Et donc, la thématique du brutalisme, elle est venue de cela. Brutalisme comme un sauvagement préoccupant de l'humanité, création consciente d'un monde inhabitable grâce d'un côté à l'accélération technologique, la plongée de l'humanité dans le milieu numérique, l'invention d'une espèce de cybervie qui est notre avenir et qui exige qu'on lui donne du sens. Le terme en lui-même, je l'ai emprunté à la théorie architecturale qui a émergé en Angleterre au milieu du XXe siècle. Et donc, le brutalisme, c'est cette accélération dans la déperdition à la fois des habitats, mais aussi de formes de vie qui nous auront accompagnés dans notre aventure terrestre pendant très longtemps.
Et d'ailleurs, vous insistez dans votre livre sur la transformation de l'humanité en matière et en énergie, en prenant l'exemple de l'Afrique comme laboratoire de la destruction. Pour quelle raison, Achille Mbembe ?
Mais parce que, objectivement, historiquement, si vous voulez, elle l'a été pour une très grande partie de son histoire. Pense par exemple au siècle de ponction humaine que représenta la traite atlantique, la traite des esclaves. Elle s'échelonna sur à peu près 4 siècles. Je pense aussi à la colonisation, qu'il nous faut comprendre au fond comme un grand événement climatique et écologique, dans la mesure où la colonisation entraîna le continent dans un processus tout à fait brutal d'extraction de ses ressources primaires. Je pense également aux années d'ajustement structurel, au moment où l'Afrique devint le grand laboratoire des politiques d'austérité, mises en œuvre également par les grandes organisations financières internationales, des années 80 au début des années 90, politiques d'austérité qui ont été étendues par la suite aux pays comme la Grèce, et ainsi de suite. Et donc, sur le long terme, on peut effectivement penser que l'Afrique aura été un des laboratoires planétaires de ce que j'appelle le brutalisme.
Et ce qui est très intéressant, Achille Mbembe, c'est que vous énumérez, vous donnez en exemple des raisons exogènes, extérieures au continent en ce qui concerne sa destruction, mais vous citez également la responsabilité des classes dominantes et des puissants au sein même du continent. Vous avez signé une tribune avec plus de 100 intellectuels africains. Il s'agit d'une lettre ouverte aux chefs d'État et autres chefs de gouvernement afin qu'ils agissent efficacement dans la lutte contre le Covid-19. Et avant que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous avez signé ce texte, je voudrais que l'on écoute ensemble cet extrait d'interview accordé en exclusivité à RFI par Wole Soyinka. C'était le 29 avril dernier. Et à propos de cette tribune, il nous interpelle sur la situation de son propre pays.
Look at my Nigeria. Look at what it earned from oil. What has been earning for oil.
Regardez mon Nigeria. Regardez ce que mon pays gagne avec le pétrole. Et regardez nos infrastructures.
Ask yourself how many hospitals did they have.
Demandez-vous combien d'hôpitaux nous avons, combien d'infrastructures, combien d'installations nous pourrions faire réquisitionner par l'État et convertir en centre de quarantaine. En termes d'infrastructures, nous sommes l'un des États les plus pauvres de la planète. Pourquoi en sommes-nous là? C'est sur cela que porte notre lettre ouverte. Nous disons, au moins à partir d'aujourd'hui, maintenant que les conséquences de cette terrible négligence sont flagrantes, qu'allez-vous enfin faire de ça? Voulez-vous saisir cette opportunité pour réfléchir à notre pleine et entière existence en tant que peuple et à votre existence à vous en particulier en tant que dirigeant sur le continent africain? Un continent qui porte une histoire d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation, d'exploitation sans fin. Et si cet événement était le moment de vous poser et vous demander si vous n'avez pas trahi votre propre peuple, trahi votre propre humanité?
« Wole Soyinka, prix Nobel de la paix, interrogé par Caroline Lachowski sur RFI. L'intellectuel nigérian en appelle à la responsabilité des chefs d'État et dirigeants de la planète, qu'ils soient américains, chinois ou africains, mais également donc du président nigérian Muhammadu Buhari, en cette année anniversaire des indépendances. Pour quelles raisons, Achille Mbembe, avez-vous joint votre voix à celle de Wole Soyinka?
Pour les mêmes raisons que Soyinka vient d'énumérer. Et je crois que ces raisons valent pas seulement pour l'Afrique, mais je dirais pour l'ensemble de l'humanité. Parce que le COVID-19, il ne respecte pas du tout les frontières. Il ne fait presque pas de discrimination entre ce que l'on appelle les races humaines. Et donc, l'interrogation que porte la lettre, elle s'adresse bien entendu à l'Afrique, mais elle s'adresse également à l'humanité. Dans le sens où ce à quoi nous sommes appelés en ce moment de notre histoire sur la planète, sommes appelés à arrêter, par exemple, d'opposer l'économie à l'écologie, l'économie aux soins, l'économie à la vie. Il me semble que le modèle dans lequel nous sommes embarqués depuis un certain nombre de siècles, c'est un modèle qui produit presque inévitablement l'entropie. C'est un modèle qui exploite de nombreuses ressources humaines, matérielles, métalliques, aquatiques, ainsi de suite, et qui dégrade beaucoup d'énergie. Ceci est possible grâce aux progrès que nous avons enregistrés dans le domaine des sciences, des technologies, des connaissances. Mais nous avons besoin, à côté des sciences, des technologies et des connaissances, d'un peu de sagesse. La sagesse consiste en quoi? Elle consiste à ajuster les actions collectives à des fins qui visent le bien de l'espèce. Et je crois que c'est ce que disait Soyinka, et donc j'ai signé cet appel parce que c'est le chemin à suivre, me semble-t-il.
Et dans votre essai Brutalisme, Achille Mbembe, c'est bien ce chemin qui n'est pas nouveau, un chemin que vous empruntez au fil de vos livres, où vous remettez en question les discours des puissants, où vous les interpellez. Et c'est bien pour cela que je vous propose de réécouter ensemble certains de leurs discours ou entretiens, comme par exemple celui du président français Emmanuel Macron accordé à Christophe Boisbouvier le 15 avril dernier sur RFI.
Ce lundi, lors de votre allocution aux Français, évidemment, vous avez parlé essentiellement de la France. Mais vous avez parlé aussi, vous avez évoqué d'autres pays du monde et vous avez appelé à une annulation massive de la dette contractée par les pays du Sud. Est-ce à dire que votre inquiétude ne porte pas que sur la France, elle porte aussi notamment sur l'Afrique?
Oui, très profondément, parce que je pense que la période dans laquelle nous entrons touche aujourd'hui tous les continents et nous voyons l'extrême difficulté à affronter ce virus et à apporter des réponses dans les pays les plus développés, les systèmes sanitaires les plus robustes. Les États-Unis, l'Europe, la Chine. Et quand on regarde la situation aujourd'hui de l'Afrique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan climatique, il est évident que nous lui devons la solidarité.
Dans une tribune à Jeune Afrique que vous avez dû lire, un certain nombre de grands intellectuels appellent eux aussi à la mobilisation, notamment des chercheurs africains, des diasporas africaines. Mais ils ajoutent attention au catastrophisme et au paternalisme de certains pays du Nord. Cette épidémie offre à certaines chancelleries occidentales matière à réactiver un afro-pessimisme d'un autre âge.
Je ne suis pas pour l'afro-pessimisme, ils ont raison. Je l'ai dit à Ouagadougou en novembre 2017. Moi, je crois très profondément dans l'Afrique, dans la jeunesse africaine, dans les capacités de l'Afrique. Et je pense que le destin de la France dans le siècle qui s'ouvre, et ma génération comme les leaders qui viendront, et les autres générations de dirigeants économiques, intellectuels, politiques, français, européens, c'est plutôt d'être des partenaires, d'aider les Africains à réussir, qu'en effet, essayer de leur expliquer les choses. Et donc, je comprends très bien l'état d'esprit de cette tribune, et je la partage. Et d'ailleurs, Moi, je pense que notre rôle, c'est de bâtir avec les Africains ce qui est utile pour eux. Et donc, c'est plutôt d'essayer de voir ce que, en Afrique, émerge comme solution, d'ailleurs, des Africains en Afrique comme des diasporas, et de les aider à advenir et à se multiplier. Les diasporas sont en train d'inventer des choses formidables. Il y a des initiatives, là aussi, pour répondre au sujet humanitaire. Il y a des initiatives sur le sanitaire. Donc, je partage l'esprit qu'il y a. Je pense qu'il faut simplement ne pas tomber dans le catastrophisme, parce que je crois profondément que l'Afrique, elle a la force morale et la résilience pour résister au virus. Simplement, elle a aussi des difficultés propres, et on doit l'aider à les surmonter par partenariat.
Solidarité et partenariat avec l'Afrique afin d'éviter une catastrophe sanitaire. Quelle analyse faites-vous, Achille Mbembe, de cette volonté affichée du président français d'un nouveau partenariat avec l'Afrique? Partenariat revendiqué, on le sait, depuis le discours de Ouagadougou, dont l'esprit semble vouloir en finir avec la tradition historique de la France-Afrique.
Le président Emmanuel Macron est quelqu'un de très intéressant d'un point de vue intellectuel. Et au fond, il y a un large espace pour un dialogue extrêmement constructif avec lui sur l'Afrique. Le rapport entre l'Afrique et le reste du monde, la France y compris bien entendu, ce rapport doit être un rapport qui vise à un enrichissement, je dirais, processuel pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. L'humanité sera pauvre si l'Afrique reste pauvre. Si l'Afrique est maintenue par toutes sortes de facteurs dans une position telle qu'elle ne puisse pas bénéficier des richesses vitales qu'elle recèle. Et donc je comprends cet appel d'Emmanuel Macron comme effectivement un appel à repenser les cadres et les conditions dans lesquelles cet enrichissement processuel pour l'Afrique et pour l'ensemble de l'humanité puisse se mettre en place. Quant à la question de la dette, elle est très compliquée. Le système de la dette tel qu'appliqué à l'Afrique est tel que beaucoup de cette dette ne pourront jamais être remboursées. Il y a des dettes toxiques qui sont objectivement irremboursables. Les intérêts sur la plupart de ces dettes, servissent sur les intérêts de la dette, même pas sur l'essentiel de la créance, prennent une grande partie des budgets nationaux, notamment dans les pays à faible revenu. C'est tout cela qu'il faut repenser. Il faut le repenser en relation avec les sommes immenses qui sortent de l'Afrique illégalement chaque année pour aller renforcer les institutions financières à l'étranger dans les paradis fiscaux et ainsi de suite. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on considère que les flux illégaux qui partent de l'Afrique vers l'Europe, les États-Unis et d'autres destinations sont nettement plus élevés que les dettes elles-mêmes. Dernier point, la Chine est devenue, au cours des 10-15 dernières années, un des principaux créanciers du continent. Les dettes africaines à l'égard de la Chine, il faudrait qu'elles soient transparentes, il faudrait éviter que l'Afrique ne devienne une réserve à gages pour la Chine, dans la mesure où l'endettement africain servirait à gager les ressources naturelles du continent. Et donc, c'est une question très, très grave, à mon sens, que l'on ne peut pas traiter en quelques secondes, mais qui exige un déballage exhaustif si véritablement on veut sortir de ce joug.
Avec une attention particulière sur ce que l'on peut qualifier de néocolonialisme, qui est une critique très souvent énoncée à l'égard de la France. Donc vous dites, Achille Mbembe, attention, il y a cette relation avec les anciennes puissances colonisatrices, mais il y a aussi cette relation à la Chine aujourd'hui.
Ah oui, cela ne sert à rien de passer d'un régime de subordination à un autre. L'Afrique veut devenir sa puissance propre. Elle a le devoir de négocier avec la Chine d'une manière qui protège à la fois ses intérêts immédiats, mais surtout les intérêts des générations à venir.
Je vous entends bien, Achille Mbembe, et ce sont autant de propositions à retrouver dans votre essai « Brutalisme » aux éditions La Découverte, puisque votre essai, au fond, est un long argument en faveur d'une nouvelle conscience planétaire pour la refondation d'une communauté des humains en solidarité avec le vivant, et les virus font partie du vivant. Comme je l'indiquais au début de cette émission spéciale qui interroge le monde d'après Covid-19, nous sommes rejoints par l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau, qui pour sa part s'apprête à publier un nouveau livre aux éditions du Félin, qui s'intitule « C'est la guerre ». Donc je pense que vos essais peuvent dialoguer. Bienvenue sur RFI, Stéphane Audouin-Rouzeau.
Bonjour.
Stéphane, avant de dire au revoir à Achille Mbembe, d'écouter Angélique Kidjo, je propose à Achille de partager avec vous sa réflexion ou de vous poser une question.
Stéphane est quelqu'un que je lis très attentivement et qui m'aide à réfléchir. Je n'ai pas de question en tant que telle à lui poser. J'imagine que chez lui également, la sortie de la guerre, de l'état de guerre, présuppose que l'on réinterroge, je dirais, les conditions de possibilité des interactions entre humanité et biosphère. Je serais très intéressé, par ailleurs, de voir comment est-ce que cette sortie de l'état de guerre permettrait, par exemple, de réconcilier la technologie et la culture. Je parle de cela parce que il y a une guerre peut-être invisible, mais néanmoins réelle, qui est en cours. C'est la compétition pour le contrôle du cerveau humain par le biais des technologies numériques. Et les plateformes numériques, les algorithmes, tout cela est porteur, je dirais, de projets géopolitiques, en même temps que cela reconfigure, bien sûr, les subjectivités individuelles et collectives, ainsi de suite. Et donc, comment sortir de la guerre en renégociant nos rapports avec, d'une part, la biosphère et, d'autre part, la technosphère? C'est quelque chose, un thème au sujet duquel j'aimerais bien entendre les réflexions de Stéphane.
Stéphane Audouin-Rouzeau.
Savoir que Achille Mbembe me lit est évidemment un très grand honneur, et ce serait un très grand honneur que de pouvoir répondre de manière un tant soit peu sûre et pertinente à sa question. Et malheureusement, je m'en sens assez incapable. Cette idée de renégocier en sortie de crise, finalement, notre relation d'une part à la biosphère, d'autre part à la technosphère, cela fait partie au fond de cette, me semble-t-il, de cette envie, de ce besoin de refondation que nous ressentons tous, que les contemporains de la fin de la Grande Guerre ressentaient. Il fallait refonder le monde sur notre... Et ça a été encore plus marqué, notamment dans les démocraties, en France, au Royaume-Uni, cette refondation nécessaire du monde, qui d'ailleurs a été en partie réalisée. Tout le système de Nations Unies, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc., fait partie de cette refondation, qui reste encore le socle, de ce socle du second XXe siècle sur lequel nous vivons encore. De ce point de vue, il est tout à fait possible, souhaitable, que la sortie de guerre, la sortie de pandémie, vous voyez, lapsus est révélateur, se traduise par effectivement une réflexion plus profonde sur, au fond, ce que nous souhaitons comme type de société, comme type d'humanité. Il est possible que cela se produise. Je pense que l'idée que nous pourrions tirer tout de suite les dividendes de la crise me paraît un espoir très aventuré.
Merci pour cette première réflexion, Stéphane Audouin-Rouzeau. Nous vous retrouvons juste après Angélique Kidjo, le temps de remercier Achille Mbembe. Grand merci, professeur, et à bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous.
Groove along and dance with a smile. Let's come together, sing this pop. shouldn't do. Everybody can help fight COVID-19 by doing what we need to do. It's a time to sit it out. Stay at home and wait it out. This is what we gotta do, mama. This is what we gotta do, papa. We need to keep our hands clean. Don't touch your face, keep your distance, please. Groove along and dance with us, mama. Let's come together, sing this, papa.
Restez à la maison, gardez vos mains propres, ne touchez pas votre visage et gardez vos distances, chante Angélique Kidjo. C'est sur la musique de Pata Pata, l'hymne anti-apartheid de l'artiste sud-africaine Myriam Makeba, un titre réédité avec le soutien de l'UNESCO visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Quelle place ce temps de la pandémie Covid-19 prend dans notre histoire mondiale? Que peuvent nous dire les historiens sur ce qui nous arrive et sur ses conséquences sur la marche du monde? Autant de questions auxquelles les professeurs Achille Membe et Stéphane Audouin-Rouzeau nous proposent des réponses à la lumière de leurs travaux. Après Achille Membe, l'auteur de Brutalisme, aux éditions La Découverte, je reçois Stéphane Audouin-Rouzeau. Il signe un nouvel essai intitulé « C'est la guerre », dont la parution est annoncée le 9 juin aux éditions du Félan. Rebonjour Stéphane Audouin-Rouzeau.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, vous en accordez très peu. Vous, qui êtes directeur d'études à l'UHESS et également président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre de Péronne. Si je tenais absolument à ce que vous soyez présent dans cette émission spéciale « Le monde après Covid », une thématique développée depuis 3 jours sur nos antennes, c'est justement parce que vous êtes l'un des tout premiers historiens français à avoir pensé la crise sanitaire que nous traversons comme une rupture historique. Pour quelles raisons, Stéphane Audouin-Rouzeau?
Parce que il me semble que j'ai cru reconnaître effectivement quelque chose que j'ai rencontré dans mes travaux jusqu'ici, qui était ce que j'appelle le temps de guerre. Non pas la guerre elle-même, je pense qu'on n'est pas du tout en guerre, on est en lutte éventuellement, mais certainement pas en guerre. Mais en revanche, il est vrai qu'il y a quelque chose d'un temps de guerre dans lequel nous sommes entrés, un temps différent du temps ordinaire qui ressemble beaucoup, d'après ce que je peux voir, de ce qu'ont ressenti les contemporains de la Première Guerre mondiale, les contemporains de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, qui dit entrer dans un temps de guerre dit nécessairement rupture historique majeure et pas simple parenthèse destinée à se refermer et à nous ramener ensuite la vie d'avant.
Alors vous le savez, depuis le début de cette émission, nous réécoutons ensemble un certain nombre de discours de différents chefs d'État et nombre d'entre eux utilisent une rhétorique guerrière, notamment Emmanuel Macron. Dès le 16 mai, sur la chaîne de télévision France 2, le président français employait un ton martial pour annoncer les mesures d'urgence face au coronavirus.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise.
Emmanuel Macron appelle à la mobilisation générale. « Nous sommes en guerre », martèle le chef d'État français, « et nous sommes sidérés ». D'autant que le président Macron fait explicitement référence dans ses premiers discours à 14-18. Quels sont justement ces mots utilisés en référence à la Grande Guerre, Stéphane Audouin-Rouzeau?
Oui, c'est très frappant, ce discours de guerre qui d'ailleurs, quand on le réécoute, est un peu plus nuancé peut-être que ce que l'on a dit. Il y a un ennemi, mais évidemment cet ennemi n'est pas exactement un ennemi de guerre. Mais néanmoins, nous sommes en guerre, dit-il, et cette formule sera répétée plusieurs fois pour convaincre les citoyens qui l'écoutent que on est entré dans un temps absolument différent du temps ordinaire, du temps de paix en quelque sorte. Le terme de mobilisation générale est là, le combat jour et nuit contre l'épidémie, un seul combat surtout, hein, qui subsume en quelque sorte toutes les autres affaires qui étaient celles de, finalement de la communauté politique à laquelle nous appartenons. Ce qui me frappe chez le président français, c'est évidemment que le grand référent, c'est la Première Guerre mondiale, première, deuxième, troisième ligne, ils ont des droits sur nous, pour parler des soignants, c'est une formule reprise de Clémenceau en novembre 1917. Ça montre tout simplement que la Grande Guerre est aussi, si elle reste un référent pour le président de la République, c'est qu'elle l'est pour nous aussi. Et que, au fond, elle véhicule des affects très, très puissants encore, très certainement, et que son utilisation, en quelque sorte, va de soi dans un épisode aussi dramatique que celui dans lequel nous sommes plongés.
Alors nous avons bien compris, Stéphane Audouin-Rouzeau, nous ne sommes pas proprement parlé en guerre, mais dans un temps de guerre, et ça change notre rapport au temps. Est-ce que ce temps de guerre que nous traversons et qui nous traverse, c'est le temps de l'incertitude? Est-ce que c'est le temps du retour au tragique pour les Européens, et de façon plus large pour les privilégiés à l'échelle de la planète?
Il faudra des études peut-être plus fines pour se rendre compte de la perception des uns et des autres, hein, de ce temps autre dans lequel nous sommes entrés, que ce temps soit marqué par le tragique, soit marqué par la mort, la menace de mort, et c'est évident. Même si la comparaison ici avec les grands conflits du XXe siècle doit rester très mesurée entre ce qu'ont subi les contemporains de la Grande Guerre en France, par exemple, et ce que nous subissons, il y a une disproportion considérable. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. C'est bien pour ça qu'il faut se méfier de cette comparaison avec la guerre. Mais en revanche, il est permis de réfléchir à ce qui serait quelque chose comme un temps de guerre dans cette séquence inouïe, c'est-à-dire absolument nouvelle, que nous vivons en ce moment.
Et une séquence que les historiens, pour l'instant, ne peuvent pas qualifier, c'est-à-dire que, par exemple, à quel moment la Première Guerre mondiale a-t-elle été qualifiée de grande guerre ?
La Grande Guerre, en fait, les contemporains avaient une grande intelligence de leur temps. Dès 1915, on commence à parler de Grande Guerre. Le terme s'impose en France, il est resté jusqu'à nos jours. Donc c'est une trouvaille sémantique. Hein. Et de même, les contemporains, beaucoup de contemporains ont perçu, dès l'été 14, que quelque chose était arrivé au temps, que la guerre faisait quelque chose au temps. Que le temps n'est pas une variable neutre qui passe et puis il n'y a rien à en dire. Il y a beaucoup de choses à en dire, ce n'est pas une variable neutre. Le temps est aussi une variable subjective, hein, ce qu'on appelle la temporalité, c'est le temps vécu, hein, pas le temps objectif de la montre, mais le temps vécu par nous tous. Et les contemporains ont eu des réflexions souvent très fines sur cette modification du temps, par exemple lors de l'entrée en guerre. Hein, et entre l'entrée en guerre et l'entrée en confinement, il y a beaucoup de correspondances. Accélération du temps, densification du temps, focalisation de l'attention sur un seul sujet, etc. Et puis, cette stase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les jours se ressemblent, il n'y a plus de termes prévisibles, ou en tout cas pas de termes nettement prévisibles, etc., ça ressemble beaucoup à ce que les contemporains disaient vivre pendant la guerre de position, et en particulier les soldats. Et pourtant, Dieu sait si nous ne sommes pas des soldats. Mais il n'empêche que cette impression de temps infini qui met à grande distance le temps d'avant, et de temps finalement détruit par l'absence d'avenir prévisible, ça c'est la correspondance, les passerelles que l'on peut établir entre ce sentiment que nous avons tous et celui qu'avaient les contemporains de la Grande Guerre. Ces passerelles sont très étonnantes, très intéressantes, et c'est en cela qu'on a l'impression d'une forme de récurrence, hein, d'un grand événement dont nous pensions être protégés, hein, depuis la fin des deux guerres mondiales.
Je vous propose d'écouter à ce sujet les propos d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Elle aussi, elle fait référence à la guerre, et plus précisément à la Deuxième Guerre mondiale.
Es ist ernst. La situation est grave, soyez-en conscients. Depuis la réunification, non depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais notre pays n'a dû relever un tel défi dont l'issue dépend autant de notre solidarité commune. Nous devons réduire la progression du virus et des infections. Il est absolument essentiel de réduire la vie sociale au minimum. Ce sont des instructions inédites depuis 70 ans pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans un pays communiste et qui sait que la liberté de voyager et de se déplacer est un droit conquis de longue lutte. De telles mesures ne peuvent être adoptées que si elles sont absolument nécessaires. Dans un pays démocratique, elles ne peuvent être que temporaires et justifiées par des situations exceptionnelles. Mais elles sont actuellement indispensables pour sauver des vies.
Le 19 mars 2020, Angela Merkel qualifiait le virus comme le plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale et faisait d'ailleurs référence à son passé est-allemand et à son attachement aux libertés fondamentales. Et c'est une question essentielle en temps de guerre, Stéphane Audouin-Rouzeau, puisque même si nous ne sommes pas en guerre au sens historique du terme, cette rhétorique de la guerre s'accompagne d'un état d'urgence sanitaire et de mesures d'exception au nom justement de la guerre contre le Covid-19. Alors, est-ce que c'est le retour des États-nations? Est-ce que c'est le retour d'une conception autoritaire du pouvoir, comme on a pu le vivre d'ailleurs dans les années 30, après la Première Guerre mondiale?
Alors, ce qui frappe beaucoup dans le discours d'Angela Merkel, c'est que c'est moins la Deuxième Guerre mondiale telle que l'Allemagne l'a vécue pendant le nazisme que la sortie de Deuxième Guerre mondiale qu'elle évoque. C'est vraiment ce qu'on a appelé l'Allemagne année zéro. Hein, c'est ce moment de là où la catastrophe allemande, finalement, est vraiment perceptible dans une Allemagne complètement détruite, ruinée, affamée, occupée. C'est là hein, le référent. Et on voit ici que, par rapport à la France, le référent tragique n'est pas le même. Pour la France, c'est la Grande Guerre. Pour l'Allemagne, c'est évidemment cette sortie de Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui me frappe beaucoup dans la crise, c'est ce retour, d'ailleurs extrêmement rapide, très brutal, des États-nations au détriment, évidemment, de la coordination qui aurait pu s'instituer au niveau de l'Union européenne, une coordination dont on sait qu'elle a échoué, enfin qu'elle n'a même d'ailleurs pas vraiment été tentée. Ce retour des États-nations, évidemment, frappe beaucoup un historien, parce que on pouvait penser en temps normal, au fond, que ces États-nations étaient en recul et que les souverainetés nationales étaient progressivement battues en brèche par la construction européenne, eh bien, devant une crise très grave comme celle-ci, c'est autre chose qui s'est joué, finalement. Les États-nations, les chefs d'État aussi, l'importance de ces chefs d'État qu'on écoute comme jamais on ne les écoute normalement, quand on voit hein, le nombre d'auditeurs de chacun des discours d'Emmanuel Macron, les chefs d'État, les États-nations, et puis, bien sûr, la réduction hein, des libertés publiques, dont je m'inquiète pas outre mesure. Quand Angela Merkel dit que c'est temporaire, évidemment que c'est temporaire. Il n'empêche que ce qui est frappant, c'est la tolérance des sociétés à cette réduction. Il y a à la fois une très forte contrainte qui est exercée sur les sociétés, bien sûr, hein, avec des amendes, etc. Mais au fond, cette contrainte ne tient que parce que les sociétés consentent à cette contrainte. Et on a là vraiment un moment de la communauté politique, de la communauté civique, tout à fait exceptionnel. Et on n'a pas fini sans doute de l'étudier, d'en tirer les leçons, les historiens, les sociologues, les anthropologues, les politistes. Il y a du travail pour de longues années.
Alors avant d'évoquer la question de la sortie du confinement, j'aimerais que l'on réécoute ensemble un extrait de l'adresse aux Français d'Emmanuel Macron du 13 avril 2020.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer. Moi le premier. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Alors prenez soin de vous. Prenons soin les uns des autres et nous tiendrons. Vive la République, vive la France.
C'était le 13 avril 2020, le président français évoquait le monde d'après en évoquant une autre marche du monde, après avoir d'ailleurs alerté sur les risques liés au nationalisme et à l'individualisme dans d'autres de ses discours. Stéphane Audouin-Rouzeau, vous qui avez identifié ce confinement comme une entrée de guerre, est-ce que Sortir du confinement, c'est sortir de la guerre dans le sens où le temps d'avant aurait définitivement basculé dans le passé.
Évidemment, s'il y a bien un temps de guerre, comme je le pense, la sortie du temps de guerre est nécessairement un processus difficile, lent, compliqué. De même que pour différents conflits, il y a une sortie officielle de guerre. On peut d'ailleurs, est-ce que c'est l'armistice, est-ce que c'est le traité de Versailles pour la Grande Guerre, est-ce que c'est le traité de Lausanne en 1923, on peut en débattre. Ça, c'est la fin de la guerre. Mais la sortie de la guerre, elle a pris beaucoup plus de temps. Je pense personnellement que nous ne sommes pas complètement sorti de la Grande Guerre par certains côtés en France aujourd'hui encore. Ben, pour le déconfinement, ce qu'on appelle aujourd'hui le déconfinement, c'est un peu le même processus. Il n'y a pas d'un seul coup d'arrêt prévisible. Il y a une lente sortie et cette lente sortie ne sera pas, je le pense, et c'est la seule prévision que je ferai parce que les sciences sociales n'ont aucune valeur prédictive des événements, c'est que dans ce temps d'après, la parenthèse ne sera pas refermée, que le temps d'avant ne reviendra pas à l'identique, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître complètement. Je suis très frappé de voir cette promesse d'un temps meilleur dans la bouche du président de la République qui fait au fond, là aussi, référence aux promesses d'après-guerre, cette idée que quelque chose de l'unité de la nation en guerre, ce mythe politique de l'unité qu'il faudrait au fond prolonger pour rebâtir quelque chose. Je trouve tout à fait normal que le président de la République utilise cette rhétorique. En tant qu'historien, elle me laisse extrêmement dubitatif. Une fois que la pandémie sera réellement maîtrisée, ce qui n'est pas le cas, il faudra que nous affrontions, à mon avis, une quadruple crise que je vois comme inévitable, une crise de sortie de pandémie, comme il y a eu des crises de sortie de guerre, une crise économique et sociale, ça va de soi, politique, ça va à peu près de soi, morale aussi. Il faut d'abord régler cette crise en espérant qu'on arrive à la régler pour espérer en sortir vers le haut. Rien n'indique actuellement que nous serons capables d'en sortir vers le haut. Absolument rien. Il y a une chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien sur l'avenir. Il faut rester, je crois, extrêmement prudent en termes de prévision. Cet avenir est largement inconnu. La crise que nous vivons ne fait référence à aucun modèle et par conséquent, la sortie de crise, nous ne savons pas comment elle va se produire. Ça ne nous empêche pas d'y réfléchir et éventuellement d'y travailler, bien entendu.
Grande leçon d'humilité, Stéphane Audouin-Rouzeau. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de vous exprimer sur RFI avec Achille Mbembe. Les jours heureux dans la marche du monde, ce sera le plaisir de vous réunir tous les deux, pour de vrai, comme on dit, dans le monde d'après. À très bientôt.
Avec
donc.
Avec plaisir.
Ainsi s'achève cette édition spéciale de la Marche du Monde après Covid-19. Une thématique à suivre sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de ce week-end. Nous sommes ensemble sur RFI. Et cette émission, signée Valérie Nivelon, Sophie Janin et Vanadis Feuille, encore et toujours, c'est la vôtre.